VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 12 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République centrafricaine, déclaration du président Faustin Archange Touadéra sur les tensions au PK5.
En République démocratique du Congo, l'opposition exige l'audit du fichier électoral.
Au Niger, démission du ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacouba.
Sanctions possibles des Nations Unies contre les personnes qui bloquent la paix au Mali.
En Syrie, évacuation d'aéroports et de bases militaires et transfert d'avions dans une base russe.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a déclaré hier que des bandits ont pris la population en otage dans le quartier musulman du PK5 de Bangui, alors que les tensions se sont accrues dans les provinces contrôlées par les groupes armés issus de l'ex-rébellion musulmane de la Séléka. Mardi, des affrontements entre une patrouille composée de casques bleus et de soldats centrafricains et des milices du PK5 ont fait au moins 19 morts, dont un casque bleu et une centaine de blessés. La MINUSCA et les forces de sécurité centrafricaines mènent depuis dimanche une opération militaire contre les milices armées du PK5. Cette opération n'avait que pour seul objectif d'appréhender les responsables des milices armées. Ce n'est pas contre une communauté ou contre la population du quartier, a assuré M. Touadéra.
En République démocratique du Congo, l'opposition dit non à la machine à voter et exige l'audit du fichier électoral. Sur place, Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans une déclaration commune lue au siège du Mouvement de Libération du Congo à Kinshasa, l'UDPS, le MLC, l'UNC, ensemble de Moïse Katumbi et Congo Nabisso de Freddy Matungulu contestent les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante le vendredi dernier sur le nettoyage du fichier électoral et exigent en même temps des mesures correctives pour garantir, selon eux, la crédibilité des résultats des prochaines élections. Félix Tshisekedi de l'UDPS, Eve Bazaïba du MLC, Jean Baudouin Maillot de l'UNC et Pierre Lou L'ensemble de Moïse Katumbi expriment également leur rejet de la machine à voter au prochain scrutin pour notamment son caractère inconstitutionnel. Faisant allusion à la dernière déclaration de la commission électorale sud-coréenne, ils évoquent, je cite, « le risque d'une fraude à grande échelle en cas d'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI ». Fin de citation. Ces leaders de l'opposition invitent par ailleurs le peuple à rester vigilant, à ne pas céder à la manipulation et à s'apprêter à exercer sans retenue son droit constitutionnel de changer démocratiquement le leadership de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Niger, démission hier du ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacouba, à la demande, selon lui, du président Mahamadou Issoufou. Il a aussitôt été remplacé par Kala Ankouarou. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La diplomatie nigérienne a désormais comme chef Kala Ankouarou, un cacique du parti au pouvoir, ministre déjà dans le premier gouvernement formé par le président Issoufou Mahamadou à son accession au pouvoir en 2011. Il remplace Ibrahim Yacouba, qui annonçait mercredi après-midi à travers un tweet avoir rédigé et remis une lettre de démission au Premier ministre. La raison est, selon le président du parti MPN Kinshasa, que le chef du gouvernement l'a informé du souhait exprimé par le président Issoufou de ne pas le garder au sein de l'équipe gouvernementale compte tenu de certaines informations sans grande précision. Au-delà de sa démission, l'ancien chef de la diplomatie nigérienne a également annoncé le retrait de sa formation politique qui compte 4 députés au Parlement de la mouvance présidentielle. Du coup, la ministre de la Communication, membre de cette formation politique, a également été remplacée. Depuis quelques mois, les relations sont froides entre celui qui est arrivé 4e aux dernières élections présidentielles et le président de la République. Ibrahim Yacouba, en tant que ministre des Affaires étrangères, se faisait en effet rare dans les déplacements officiels. Sa formation politique est aussi farouchement opposée à la Commission électorale nationale indépendante mise en place à la fin de l'année 2017. Elle la juge notamment pas assez représentative dans sa composition et met en doute la neutralité des représentants de l'administration au sein de cette commission. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Toujours au Niger, un humanitaire allemand a été enlevé hier par des hommes armés près d'Ayourou, dans une région frontalière du Mali en proie à des attaques djihadistes récurrentes. L'Allemagne a construit une base militaire en appui à la mission militaire onusienne au Mali voisin et soutient le Niger dans sa lutte armée contre les groupes djihadistes avec de l'équipement militaire, de la formation et des aides financières.
L'ONU doit entreprendre prochainement l'identification des Maliens qui font obstruction à la paix dans leur pays en vue de leur imposer des sanctions. C'est ce qu'ont affirmé hier la France et les États-Unis, mais la Russie a mis en garde contre toute précipitation. Le point avec John Linden.
Les retards dans l'application de l'accord de paix de 2015 nous conduisent à devoir aller plus loin, a résumé l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le Mali. Aucun progrès substantiel n'a été réalisé dans l'application de l'accord et nous souhaitons travailler avec nos partenaires pour identifier les responsables et prendre les mesures qui s'imposent, a abondé Amir Tachko, diplomate américain, en évoquant la perspective de sanctions. L'objectif est de viser dans un premier temps une série de responsables qui nuisent à l'application de l'accord sur le terrain, notamment par leur collusion avec des groupes terroristes ou des activités de trafic, a indiqué le diplomate français. Mais pour l'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dmitry Polianski, l'utilisation directe des sanctions doit être une mesure de dernier recours. Il a de ce fait mis en garde contre toute action à la hâte, ce qui serait contre-productif. Présent au Conseil de sécurité hier, le ministre malien des Affaires étrangères, Tiemane Hubert Koulibaly, a défendu l'action de son gouvernement, assurant que les petits pas accomplis pour rétablir la confiance entre les acteurs étaient des pas sûrs.
Au Sénégal, poursuite du procès inédit d'une trentaine de djihadistes présumés, les prévenus continuent de défiler à la barre. Une femme a reconnu avoir été au centre d'importants mouvements de fonds provenant de Boko Haram. Abdourahman Dia.
Koumbagnan, 34 ans, épouse d'un Sénégalais accusé d'avoir combattu aux côtés de Boko Haram, a révélé à la barre qu'elle recevait de l'argent des djihadistes. « Avant de partir pour le Nigeria, Mortar Diohane m'avait confié de l'argent », a-t-elle affirmé. Elle a assuré avoir remis sur instruction de son époux de l'argent à des proches de ce dernier, confirmant les dires de notre prévenu Ibrahim Diallo, qui a indiqué mardi devant la barre avoir reçu d'elle 22 000 euros à son retour du Nigeria. Selon le parquet, lors d'une perquisition à son domicile près de Dakar, 14 500 euros ont été saisis dans sa chambre, en plus de documents relatifs au djihad. Mère de trois enfants, Koumbagnan est une des deux épouses de Mortar Diohane, un des principaux prévenus de ce procès inédit au Sénégal. Au total, 29 personnes, dont un imam et trois femmes, sont jugées pour actes de terrorisme par association de malfaiteurs, par menaces ayant pour but de troubler l'ordre public, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux. Le Sénégal, qui compte plus de 90% de musulmans, a été jusqu'à présent épargné par les attentats djihadistes qui ont frappé d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, mais il a renforcé la sécurité devant les hôtels et de nombreux bâtiments publics après les attentats dans la région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée syrienne a évacué des aéroports, des bases militaires, ainsi que des bâtiments du ministère de la Défense et de l'état-major à Damas. Il s'agit de mesures prises pour se protéger contre une éventuelle attaque aux missiles des États-Unis. Marie Benson fait le point.
Le président américain Donald Trump a menacé de représailles le régime syrien de Bachar al-Assad suite à une attaque chimique présumée le 7 avril 2018 près de Damas. Selon Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les bâtiments de l'armée et son QG ont été évacués au cours des deux derniers jours. Certains avions ont été transférés à la base aérienne russe Khmeimim. Une source pro-régime en Syrie assure toutefois que les Américains devraient prévenir les Russes avant toute frappe. Mercredi matin, le président américain a publié un tweet dans lequel il accuse la Russie d'adhérer aux pratiques de Bachar al-Assad. Donald Trump décrit le chef d'État syrien comme un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple. Selon les casques blancs qui sont les secouristes sur place, l'attaque au gaz toxique aurait tué plus de 40 personnes. Le régime est accusé de l'attaque, mais cette information n'a pas été validée de sources indépendantes.
Un combattant du groupe islamiste palestinien Hamas a été tué aujourd'hui dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza, a indiqué le ministre de la Santé de ce territoire, qui a aussi mentionné un blessé grave. Israël a confirmé la frappe, affirmant qu'il s'agissait d'une riposte après des tirs d'armes vers le territoire israélien à la frontière entre Gaza et Israël. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La commission mauricienne des services financiers a gelé des fonds de l'homme d'affaires angolo-suisse Jean-Claude Bastos. Elle a bloqué ses 25 comptes ouverts auprès de trois grandes banques mauriciennes à hauteur de plus de 156 millions de dollars. Il serait mêlé à une enquête ouverte en Angola sur le détournement de 500 millions de dollars. Cette enquête concerne aussi José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. L'Égypte veut créer un centre logistique en Afrique de l'Ouest pour booster ses exportations dans la région. Le ministre du Commerce, Tarek Kabil, a laissé entendre que le Ghana ou la Côte d'Ivoire pourraient abriter la nouvelle réalisation. Sa mise en œuvre répond à l'initiative Égypte-Liban vers l'Afrique et permettra au Caire d'augmenter ses exportations sur le continent en bénéficiant du large réseau de son partenaire du Moyen-Orient. Un accord de 2016 avait permis au Caire d'exporter 60 containers de céramique vers l'Ouganda. Les cours du pétrole ont grimpé hier à leur plus haut niveau depuis décembre 2014. Les cours ont bondi à la suite du regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient entre la menace de frappe américaine en Syrie et un tir de missile sur l'Arabie Saoudite. Les analystes gardent également en tête le risque d'une perturbation des exportations iraniennes.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Arsenal et l'Atlético Madrid sont bien partis pour accéder aux demi-finales de l'Europa League.
Les deux favoris se sont imposés sans trop trembler en quart aller et abordent donc la manche retour ce soir avec confiance. Les hommes d'Arsène Wenger ont, c'est vrai, encaissé un but à domicile, mais ils ont aussi une avance de 3 buts face à un CSKA Moscou, quand même limitée après leur défaite 4 buts à 1 à l'aller. Les Espagnols de l'Atlético Madrid ont eux aussi pris une bonne option pour les demi en s'imposant à domicile 2-0 face au Sporting Portugal.
Les deux autres quarts de finale restent plus indécis.
Tout à fait Idrissa, le RB Leipzig a pris une option sur la qualification en battant Marseille à l'aller 1-0. Mais attention, les Olympiens espèrent renverser le club allemand avec l'aide de leur bouillant vélodrome. Et la Lazio Rome est favorite face aux Autrichiens de Salzbourg, fort de son succès 4 buts à 2 à l'aller. Mais les Italiens doivent se méfier des deux buts encaissés chez eux.
En Ligue des champion hier, le Real a survécu à la remontada de la Juventus.
Au lendemain de l'humiliation infligée par l'AS Rome au FC Barcelone 3-0, l'Italie a failli surprendre encore l'Espagne. Au Santiago Bernabéu, des buts de Mario Mandzukic, 2e et 37e minute, et Blaise Matuidi à la 61e, ont effacé l'avantage de 3 buts acquis à l'aller à Turin par l'équipe double championne d'Europe en titre. Et dans le temps additionnel, alors qu'on filait vers la prolongation, pénalty polémique sifflé par l'arbitre, qui a exclu dans la foulée Gianluigi Buffon pour contestation et but à la 97e de l'intraitable Cristiano Ronaldo, son 15e cette saison et son 120e en 150 matchs de Ligue des Champions. Dans l'autre rencontre de la soirée, le FC Séville a tenu le Bayern Munich à l'échec, 0-0, insuffisant pour les Andalous, qui s'arrêtent en quart de finale après leur défaite à l'aller 1-2. Sont donc qualifiés pour les demi l'AS Rome, Liverpool, le Bayern Munich et bien sûr le Real Madrid. NBA, pour terminer avec vous, Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
Boston et Brooklyn, 110 à 97. New York et Cleveland, 110 à 98. Miami et Toronto, 116 à 109. Orlando et Washington, 101 à 92. Philadelphie et Milwaukee, 130 à 95. Détroit et Chicago, 119 à 87. Minnesota se qualifie pour les playoffs en battant Denver 112 à 106. La Nouvelle-Orléans et San Antonio 122 à 98. Oklahoma City et Memphis 137 à 123.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, Bangui, la capitale, a connu ces dernières 72 heures un regain de violence après l'opération de désarmement menée conjointement par la MINUSCA et les forces de défense et de sécurité contre les groupes d'autodéfense du quartier PK5. 19 personnes, dont un casque bleu, ont été tuées, une cinquantaine blessées dans cette opération. Joint par Félix Yepassis Zembrou, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, Joseph Bindoumi, a qualifié cette situation de prévisible.
Avec cette possibilité de laisser les groupes armés se manifester sous tous les prétextes du monde, devait aboutir à ce que nous avons connu au kilomètre 5. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Je ne connais pas le bilan exact, mais ce qui était sûr, c'est que tout cela était prévisible. Nous avons annoncé à plusieurs reprises qu'il fallait que les forces internationales qui sont ici en République centrafricaine, par la voie pacifique, contraignent les autodéfenses du kilomètre 5 d'arrêter de faire de la violence. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation pour moi considérée comme irréparable.
Comment expliquez-vous l'insécurité qui perdure en Centrafrique malgré la présence de 12 000 soldats des forces onusiennes?
Vous vous rendrez compte que ni les Nations Unies, ni leurs représentants en République centrafricaine par la MINUSCA, ni personne ne parle de la fin de la guerre en République centrafricaine. Tous les rapports, tous les discours vont dans le sens de PDR, feuille de route de l'Union africaine, signature des accords, dialogue possible, mais tout le monde contourne le vrai problème qui est de tout mettre en œuvre pour que la guerre en République centrafricaine cesse. Le kilomètre 5 compte environ 3000 commerçants. Et tous les matins, le groupe d'autodéfense récolte chez chaque commerçant une somme de 5000 francs par jour. Avec cet argent, ils achètent des armes, ils entretiennent des hommes et ne sont pas prêts à ce que la paix revienne dans cette zone du pays. Nous avons dit au gouvernement de la République que la meilleure façon, c'était sans aller par la violence, me faire comprendre à ceux qui font le mal que personne n'est d'accord avec eux. Mais malheureusement, on a caressé le mal dans le sens du poil et aujourd'hui, les conséquences sont ce que nous connaissons sur le terrain.
Aujourd'hui, Monsieur le Président, le chef d'État dit que la population est prise en otage face à cette situation. Est-ce votre avis?
C'est le peuple centrafricain qui est pris en otage. Quand vous prenez un pays comme le nôtre, qu'on vous dit que votre armée est sous embargo. Les résolutions pour renouveler l'embargo de 2020 sont déjà sur la table prêtes à être rendues publiques en 2020. Et quand on se rend compte que la formation de nos troupes sort par compte-goutte, quand on dit qu'il faut qu'on dote ceux qui sont déjà formés en armes pour défendre les populations, alors vous comprenez que personne ne veut pas qu'on sorte de l'état dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, à Batangafo, à Karabandoro, à Bria, à Ndélé, à Bangassou, les populations centrafricaines sont en otage parce que les conditions qu'on pose à notre gouvernement et qu'on l'oblige à accepter sont des conditions qui ne sont pas de nature à ramener la paix en République centrafricaine.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Tchad, il est difficile d'avoir accès aux réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp ou Twitter. Les internautes avertis téléchargent une autre application sur leur téléphone pour pouvoir contourner cette censure, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kotmadjingar.
La privation de réseaux sociaux imposés aux Tchadiens sans les en informer au préalable ressemble à une entrave à la liberté d'opinion et d'expression. Car aujourd'hui, nombre d'internautes tchadiens ont du mal à correspondre avec l'extérieur via Internet à cause de cette restriction du réseau. Quelques internautes de N'Djamena se lamentent.
On a besoin de se connecter, on a besoin d'avoir des informations et subitement, on nous surprend à une interruption sans explication.
J'arrive à recevoir mes mails, j'arrive à consulter certains sites, mais pour Facebook, Facebook et WhatsApp, je suis obligée de passer par des applications VPN et ça prend beaucoup d'unités.
Une situation qui impacte aussi négativement le travail des journalistes, surtout les responsables des journaux en ligne. Jimmy Huchier est le directeur des publications de Aluda Info.
Nous avons aussi l'habitude de partager nos informations sur Facebook, sur Twitter. Malheureusement, nos lecteurs ne parviennent pas à y accéder. Cela constitue déjà un manque à gagner pour nous. Parce qu'à la fin de chaque mois, Google a l'habitude de nous rémunérer.
Pour le directeur des publications du site web du journal Le Pays, le nombre des visiteurs de son site a baissé. Majasra Nako demande aux opérateurs de téléphonie mobile de ne pas inscrire leur nom sur la page sombre de l'histoire.
Au niveau interne, nous sommes autour de 100 000 vues par semaine. Mais là, sur les deux dernières semaines, ça a dégringolé. Et c'est une situation qui est dommageable parce que c'est le trafic sur le site internet qui incite les annonceurs, par exemple, à venir faire de la publicité chez nous. Entre respecter sa clientèle et respecter un État, il faut bien qu'ils sachent se mettre du bon côté de l'histoire. Sinon, un jour, on leur rappellera que RTL Outigo a été complice d'une dictature.
Le secrétaire chargé des droits et intérêts économiques de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, Yaya Sidim, parle d'un manque de respect et de considération envers les consommateurs.
En principe, quelles que soient les causes qui ont conduit à cette mesure d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux, on doit au moins tenir informés les consommateurs. Aujourd'hui, les TIC font partie intégrante de notre vie de tous les jours. On ne peut pas nous priver de ça.
Ni le gouvernement, ni les opérateurs de téléphonie mobile, moins encore l'autorité de régulation, ne souhaitent se prononcer sur cette question. Mais tout porte à croire que la restriction des réseaux sociaux serait demandée par le président Déby en personne pour des raisons de sécurité. Car, selon des sources concordantes, un proche du régime au pouvoir s'en est pris violemment à ceux qui contestent la gouvernance du système dans une vidéo postée sur WhatsApp. André Kodmadjingar Ndjamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Côte d'Ivoire, c'est ce jeudi 12 avril qu'a lieu la rentrée solennelle du Sénat, une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante. Mais cette institution ne fait pas l'unanimité. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Rentrée solennelle du nouveau Sénat ce jeudi à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays, en présence du président Alassane Ouattara et des présidents des différentes institutions. Composée de 99 membres, dont 66 élus au suffrage indirect et les 33 autres nommés par le président de la République, le Sénat est chargé d'assurer au sein du Parlement la représentativité des collectivités territoriales et des Ivoiriens de la diaspora. Mais, au sein de l'opposition, on n'est toujours pas convaincu de l'utilité de cette institution prévue par la Constitution adoptée en octobre 2016. Mamadou Koulibaly, du parti Liberté et Démocratie pour la République, leader.
Un Sénat dont on ne voit vraiment pas quoi est-ce qu'il va servir. On renforce un Parlement en transformant le régime présidentiel qu'on a en un régime parlementaire, en donnant plus de moyens aux députés de contrôler l'action gouvernementale, en faisant du Parlement le centre du pouvoir, en obligeant le Parlement à demander des comptes à l'exécutif et en obligeant l'exécutif à rendre des comptes au Parlement.
L'opposition dénonce également la multiplicité des institutions.
Il y a la Chambre des rois et chefs traditionnels. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a le Sénat qui vient d'arriver, qui sera une chambre supplémentaire sans qu'on ne nous dise exactement comment cette chambre-là va renforcer le Parlement. Il y a le Conseil économique et social qui est supposé être un groupe de conseillers du président de la République.
Autre son des cloches, celui de Pierre Kwame Adjoumani, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la Lido. Pour lui, le Sénat peut être un plus pour la démocratie ivoirienne.
Ce serait un plus pourquoi ? Les lois vont être mieux examinées et nous pensons que plus examinées, et si cela se fait en toute indépendance, ça va concourir bien entendu à l'avancement de la démocratie dans nos pays. Peut-être que à la pratique, nous verrons que ce n'est pas nécessaire, ou à la pratique, c'est nécessaire. Donc, voyons ce que ça va faire, ça va donner.
Dans la rue, les avis divergent sur l'instauration de cette nouvelle institution.
Personnellement, je me dis que les députés, peut-être qu'ils font le même boulot que le Sénat. C'est ce que je me dis, mais je ne connais pas réellement quel est le rôle du sénateur.
Dans tous les pays développés, il y a toujours un Sénat. Moi, je dis personnellement, c'est bon. Ça permet l'évolution. Dans le Sénat, pour moi, c'est bienvenu. On verra ce que ça va apporter.
Moi, je pense que c'est un peu trop parce qu'il y a tellement d'institutions et que ça, encore le président du Sénat, il faut le payer à des millions. Entre nous-mêmes qui sommes là, les gens, on n'en a pas. Les salaires, il n'y a pas. Acheter de l'huile, ça coûte cher. Même les médicaments, c'est compliqué. Bon, on peut au moins faire des économies avec ça un peu.
Le Sénat ivoirien va siéger à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, et sera dirigée par l'ancien premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Georges Ibrahim Toumkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
L'exercice militaire dénommé Flintlock, organisé depuis 2005 par AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, a été lancé au Niger et à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'exercice permettra de soutenir l'armée burkinabé pour l'aider à faire face au terrorisme. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Des forces spéciales américaines en compagnie des forces spéciales européennes et africaines réunies à Ouagadougou pour l'exercice militaire du commandement américain Flintlock 2018. Le colonel Rémi Kabore, chef de la division opération adjoint de l'état-major des armées du Burkina Faso, explique pourquoi cet exercice militaire.
L'exercice Flintlock est un exercice militaire multilatéral planifié, coordonné et exécuté par les forces spéciales africaines, américaines et leurs partenaires européens. Cet exercice-là vise en fait à encourager les pays à coopérer au niveau de la région, à stabiliser la région transsaharienne en réduisant au maximum les capacités de nuisance des groupes d'extrémisme violent.
Pour cette édition de Flintlock, plus de 1500 soldats, des forces spéciales essentiellement de plus de 20 pays africains participent. Ces soldats maliens qui parlent sous anonymat est au Burkina Faso et espèrent acquérir le maximum dans cet exercice militaire.
Ambora Mali là, Anana Burkina.
Nous avons quitté le Mali, venir au Burkina Faso pour des entraînements. Nous sommes venus en compagnie de soldats américains et des soldats de bien d'autres pays. Et dans cet entraînement, il y a que nous arrivons à nous connaître les uns les autres. Et ce que nous connaissons déjà dans notre travail, on peut apprendre plus. Si nos autorités ont eu l'idée de nous mettre ensemble pour ce genre d'entraînement, c'est parce qu'elles ont confiance. Et pour cela, nous allons nous y mettre. Et ce qu'on va apprendre ici, on va l'utiliser justement pour combattre les terroristes.
En clair donc, la formation permettra de lutter contre le terrorisme. Le chef de la division opération adjoint de l'état-major des armées du Burkina Faso.
Mais de façon concrète, cet exercice va permettre d'acquérir pour nous une sérieuse formation et bien sûr un savoir-faire niveau tactique qui pourront être employés dans l'immédiat dans la défense des populations civiles au niveau de notre pays et bien sûr de tous les pays participant à cet exercice.
Flintlock, cet exercice militaire multilatéral est annuel. En plus du Burkina Faso, il est organisé simultanément au Niger et au Sénégal. Il va durer 2 semaines. C'est le plus grand exercice militaire multinational d'opérations spéciales et d'entraînement entre les nations africaines et leurs partenaires occidentaux. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Syrie, théâtre samedi dernier d'une nouvelle attaque chimique présumée, encore une fois imputée au régime de Bachar al-Assad. Les condamnations internationales ont été immédiates, mais vont-elles aboutir à une riposte militaire? Le président américain Donald Trump frappera-t-il Damas comme il l'a fait l'an dernier? Comment réagira la Russie de Vladimir Poutine, l'allié indéfectible du gouvernement syrien? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.